Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères. Nous commençons donc aujourd'hui un nouveau temps liturgique avec les deux semaines de la Passion, les deux semaines les plus chargées en grâce de toute l'année liturgique. Rappelez-vous ce qu'enseigne l'Église, c'est que le bon Dieu donne plus de grâce pendant ces deux semaines, surtout la deuxième semaine de la période de la Passion, la semaine sainte, que pendant toute l'année liturgique. Donc il faut les demander, ces grâces. Rappelez-vous que la plupart des grâces sont conditionnelles. Le bon Dieu les donne à condition qu'on les demande. Il a dit expressément, il ne faut pas oublier ça. Demandez et on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Si on ne veut pas frapper, on ne veut pas chercher, on ne veut pas demander, on n'a rien du tout. Donc nous sommes dans le temps de la Passion, donc la croix, vous voyez, est déjà couverte de voile violet pour nous rappeler que tout va être focalisé maintenant sur la Passion de notre Seigneur. Évidemment, cette période est tellement riche qu'il est difficile de chercher, trouver un point de sermon tellement il y en a. Pour essayer de vous aider à bien profiter de la Semaine Sainte, d'abord, je ne peux que vous conseiller pendant ces 15 jours de temps de la Passion de lire par vous-même, parce que vous n'avez pas la messe malheureusement tous les jours, de lire par vous-même les textes liturgiques. Obligez-vous, prenez votre missel et lisez les textes de la messe de chaque jour pour bien vous imprégner de l'esprit de l'Église. Et s'il est une parole de l'Évangile, de la Sainte Écriture qu'on peut prendre pour vraiment méditer et comprendre l'importance de ce temps de la Passion, je crois que je vais choisir la phrase de notre Seigneur juste avant de mourir. Notre Seigneur est déjà crucifié, il n'est pas encore mort, et qu'est-ce qu'il va dire ? Sitio, j'ai soif. Je vous propose d'utiliser cette phrase justement pour alimenter votre méditation pendant le temps de la Passion. Une phrase très courte, sitio, un seul mot. J'ai soif. J'ai soif de quoi ? J'ai soif, en fait, nous dit notre Seigneur, j'ai soif d'âme d'âme de compassion, d'âme qui accepte de veut dire m'aider à souffrir. C'est un grand mystère, c'est un mystère qu'on a du mal à cerner. Beaucoup de gens pensent que la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ est complète puisqu'il est Dieu. Donc il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit à la Passion. Et pourtant la Passion n'est pas complète. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ dit en Saint Paul, il faut compléter ce qui manque à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui manque à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est justement notre participation. C'est pour ça que le bon Dieu dit, j'ai soif. J'ai soif d'âme de compassion. L'esprit du temps de la Passion, c'est l'esprit de compassion. Cum patere en latin. Souffrir avec. Quelque sorte, le bon Dieu nous demande de venir souffrir avec lui d'une façon mystique, puisque maintenant il est au ciel avec son corps glorieux, puisque nous ne pouvons pas directement venir porter de sa propre croix sur nos épaules, et bien il nous demande de venir participer par notre amour pour lui, participer à ses souffrances. Un petit peu comme la très sainte Vierge Marie qui ne pouvant pas porter la croix de son divin fils, eh bien va l'accompagner le long de la voie douloureuse du calvaire et qui va être là au pied de la croix au moment où son fils va mourir sur la croix. C'est ça qu'il a dit, quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi. Donc demandons cette grâce de savoir aider notre Seigneur à porter sa croix. Nous sommes d'autant plus obligés d'aider notre Seigneur à porter sa croix que notre Seigneur est innocent, il apporte pour nous cette croix. C'est pas lui qui a péché, c'est nous. Donc c'est nous qui devrions porter la croix, et comme nous ne pouvons pas porter la croix par nous-mêmes, ben, le bon Dieu va la porter pour nous. Donc la moindre des choses que nous puissions faire, c'est justement participer autant que faire se peut, participer en quelque sorte à ce portage de la croix de notre Seigneur. Alors pose-nous la question, bien, comment allons-nous réconforter le cœur de notre Seigneur ? Bien encore, la réponse est dans l'Évangile. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il été réconforté ? Eh bien, le bon Dieu va envoyer, Dieu le Père va envoyer un ange consolateur. Encore un mystère insondable. Une créature qui vient consoler le Créateur. Un ange, donc créé par Dieu, qui vient consoler le Fils de Dieu, qui est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Comment une telle chose est-elle possible ? Et même, l'anéantissement va même plus loin que cela. Parce que vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, au début de sa Passion, quand il est au Jardin des Oliviers, a même accepté de tomber en désolation. Souvent, les gens disent, Monsieur l'Abbé, je suis en désolation, c'est épouvantable, qu'est-ce que je dois faire ? Regardez ce qu'a fait notre Seigneur quand il est tombé en désolation lui-même. Quel est le premier signe de la désolation ? La tristesse. Et qu'est-ce que dit notre Seigneur Jean-Denis Olivier? Mon âme est triste à en mourir. Justement, voilà apparaître cette tristesse. Et notre Seigneur nous donne la clé pour lutter. Il nous dit, veillez, priez, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Donc, prière et pénitence, c'est deux grands moyens de lutter contre précisément cette désolation. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est désolé, notre Seigneur Jésus-Christ, le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ est déjà broyé dès le jardin des Oliviers, la moindre des choses que nous puissions faire, c'est d'essayer de le consoler. Les pères de l'Église font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ va plus souffrir pendant l'agonie au jardin des Oliviers que pendant la flagellation et même la crucifixion elle-même, alors qu'on ne l'a pas touché. Pourquoi ? Pourquoi cette agonie terrible de 3 heures du Fils de Dieu ? Cette agonie terrible de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est parce qu'il est Dieu, il sait tout, il va voir l'inutilité apparente de sa passion pour tant de gens. C'est comme ça que le démon va essayer de le faire tomber dans le désespoir. L'inutilité apparente de tant de gens qui ne vont pas vouloir, en quelque sorte, utiliser les grâces provenant de la passion de notre Seigneur. En gros, le démon lui dit, tu meurs pour tes créatures, regarde, ils s'en fichent, ils s'en occupent même pas. De toute façon, la moitié de ces créatures, elles vont m'appartenir après leur mort, puisqu'elles ne s'occupent pas du bon Dieu de vous ici-bas, donc c'est moi qui vais les récupérer quand même. Et le fait de sentir que tant d'hommes vont refuser la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, que simplement Dieu, il est aussi homme, donc dans son humanité, il va avoir son cœur complètement broyé. Donc posons-nous cette question, c'est la question à laquelle beaucoup de pères ont essayé de répondre. Comment donc l'ange consolateur a-t-il consolé le Sacré-Cœur? Imaginez que le bon Dieu vous ait demandé à vous de venir consoler le Sacré-Cœur de notre Seigneur. Qu'est-ce que vous auriez dit? Qu'est-ce que vous auriez expliqué? Eh bien, les pères de l'Église pensent, il n'y a pas ils ne pensent pas tous la même chose, mais en général, ils disent que l'ange a apporté à notre Seigneur Jésus-Christ la plus belle créature qui ait jamais été créée sur la terre, exactement la deuxième créature. Et la plus belle créature, la plus belle création de Dieu, c'est l'âme de son Fils, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était précisément cette âme qui était broyée. Donc Dieu va envoyer par l'ange consolateur, il va envoyer la deuxième création la plus belle que Dieu ait jamais faite ici-bas sur la terre, à savoir l'âme de notre Sainte Vierge Marie. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ, nous disent les pères, quand notre Seigneur Jésus-Christ a vu l'âme de notre Sainte Vierge Marie, alors il a été consolé. Alors posons-nous cette question toute simple, est-ce que je peux en ce temps de la Passion, est-ce que je peux consoler le cœur sacré de notre Seigneur Jésus-Christ par mon âme? Ou est-ce qu'au contraire, mon âme est tellement noire et tellement obscurcie par le péché que non seulement cette âme ne va pas pouvoir consoler notre Seigneur Jésus-Christ, mais elle va en quelque sorte essayer de le pousser encore vers le bas, vers le découragement? Et donc si je constate que mon âme n'est pas actuellement capable de consoler le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien profitons justement de ce temps de la Passion pour par une bonne confession, nettoyer notre âme afin qu'elle soit digne de venir consoler notre Seigneur. Voilà ce qu'il faut faire, mes chers frères. Donc, posons-nous cette question, comment puis-je consoler notre Seigneur? Il y a peut-être d'autres choses que nous pouvons faire. Le bon Dieu attend en fait une consolation de chacun d'entre nous. Il nous connaît, il connaît nos défauts, il connaît nos faiblesses. Il attend de chaque âme une consolation spéciale, exactement selon la volonté qu'il veut pour chaque âme. Chaque âme étant différente. Il ne veut pas être consolé de la même façon par toutes les âmes. Donc peut-être que pendant ce temps de la Passion, il y a un effort particulier que nous devrions faire, pas simplement pour nous confesser d'ailleurs, mais aussi peut-être pour pratiquer davantage une vertu spéciale que le bon Dieu va nous demander de pratiquer justement pendant le temps de la Passion à cause de ça. Une autre image qui est dans la Sainte Écriture qu'on peut utiliser aussi pour nous expliquer cette nécessité d'aider notre Seigneur. Lorsque le Seigneur va dire, avant de mourir, « Sitio, j'ai soif », un des soldats, qui est pourtant un païen, va prendre une éponge, la piquer au bout de sa lance, va la tremper dans l'eau et va la présenter à notre Seigneur. Bon, c'est une image qu'on peut utiliser pour nous dire, voilà, moi, si je peux au moins faire ça, au moins venir rafraîchir les lèvres de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont assoiffés au possible. Donc, il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire pour aider notre Seigneur Jésus-Christ à souffrir pour moi. faut pas faire de méditation protestante, mes chers frères. Les protestants, ils pensent que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, maintenant il est ressuscité, c'est fini, il n'y a plus besoin d'y penser. L'histoire est passée. Non. Parce qu'encore une fois, il faut achever ce qui manque à la passion de notre Seigneur. Il y a d'autres termes que nous pouvons rechercher dans la Sainte Écriture pour nous aider à méditer pendant ces 15 jours de la Passion. Je pense qu'un des termes les plus importants, peut-être des phrases les plus importantes qu'on puisse utiliser pour cette méditation, c'est l'avertissement de notre Seigneur aux apôtres. Tout à fait au début, au Jeudi Saint, avant même la Passion, tout à fait au début, lorsqu'il vient d'instituer la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe, il vient d'ordonner prêtres ses apôtres, il vient de les consacrer évêques. Il va leur dire, le cœur broyé justement par la tristesse, l'un de vous me trahira. Et pose-nous cette question, mais qui va trahir notre Seigneur? Et vous voyez l'humilité des apôtres, ils vont pas tous te dire à tous les coups c'est Judas, non, ils se tournent vers notre Seigneur et ils disent à notre Seigneur, Seigneur, est-ce moi? Suis-je celui qui va vous trahir? Et donc, le bon Dieu demande justement à ce que nous fassions notre examen de conscience, est-ce que je suis celui qui va trahir notre Seigneur? Le monde sait tout. Il sait par exemple très bien quel est celui d'entre nous, ici dans cette petite chapelle, quel est celui d'entre nous qui va commettre le premier péché mortel après la Sainte Messe. Lui sait qui. Nous, on ne sait pas. Peut-être, ça peut être moi, sous la grâce du bon Dieu. Donc il faut avec beaucoup d'humilité demander cette grâce à notre Seigneur. Seigneur, faites que je ne sois pas celui qui aille vous trahir, que je ne sois pas celui qui vous trahisse par justement le péché grave. Le péché grave, c'est une trahison de haut vol. Pourquoi? Parce que notre âme est consacrée par le Saint-Baptême. Par le baptême, notre âme appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on prend quelque chose qui lui appartient, on profane cette chose qui appartient à notre Seigneur Jésus-Christ avec des choses purement temporelles, des choses terrestres. Au lieu de mettre dans nos âmes les choses pour lesquelles cette âme a été créée, à savoir les choses célestes. Donc posez-nous cette question toute simple, est-ce que je suis celui qui va trahir notre Seigneur? Alors les apôtres vont être bouleversés par cette phrase et vont se poser la question, est-ce moi? Et ce sera chacun d'entre eux. Il y a une autre phrase qu'on peut utiliser maintenant dans l'Écriture sainte, une phrase qui en dit très long aussi, tous alors s'enfuirent. Juste après l'arrivée de Judas qui avait livré son maître, il vient avec une troupe de gens pour arrêter notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres vont pas faire grand-chose. Certes, Saint-Pierre va couper l'oreille du serviteur du grand prêtre, Malchus, mais ils vont tous se sauver comme des lapins. Alors, posez-nous la question, si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais fait? Quand on explique ce trait, ce point de la passion aux enfants, en général, ils réagissent bien et nous disent, Monsieur l'abbé, moi, si j'avais été là, je ne me serais pas sauvé, je me serais battu. Elle est obligée d'expliquer ce passage aux enfants en disant, certes, vous seriez battus, mais regardez un petit peu ce qu'ont fait les apôtres. Les apôtres, ils ont reçu une formation extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces 3 ans de vie publique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se sauvent. Donc si les apôtres, même le grand Saint-Pierre qui va devenir pape, même Saint-Jacques qui va être le premier apôtre à mourir pour notre Seigneur, même Saint-Jean qui était l'apôtre que Jésus aimait, s'ils se sauvent tous comme des lapins, qu'est-ce que vous pensez que vous auriez fait? L'enfant réfléchit. Et finalement, il change d'idée, il me dit, Monsieur l'abbé, je crois que je me serais sauvé, que j'aurais couru encore plus vite que les apôtres. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est notre passion. C'est nous qui provoquons la passion. Donc si les apôtres se sont sauvés, qu'est-ce que j'aurais fait moi-même? Sans doute que je me serais, moi aussi, enfui encore plus vite que les autres. Donc demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces de lumière, ces grâces qui sont tellement importantes pour nous, pour ne pas gaspiller la passion de notre Seigneur. C'est une chose que notre Seigneur Jésus-Christ soit déjà obligé de porter la croix pour nous et de mourir pour nous alors qu'il est innocent. C'en est une autre pour nous, malheureusement, d'augmenter encore, je dirais, encore plus les dégâts spirituels en refusant catégoriquement de réparer autant que faire se peut. Le premier acte que nous pouvons faire pour réparer, c'est l'acte de contrition, bien sûr. L'acte de contrition ne doit pas être séparé de l'acte de charité. On regrette ses péchés parce qu'on aime le bon Dieu. On regrette ses péchés parce que justement, par un changement de vie, on veut essayer d'enlever en quelque sorte une partie du poids de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur ses épaules. Chaque fois que nous faisons des efforts, chaque fois que nous essayons de contrôler nos passions, de pratiquer une vertu particulière dont nous avons besoin, à chaque fois, on soulève un petit peu le poids de la croix de notre Seigneur pour l'aider à porter la sienne, qui est en fait contre la nôtre. N'oublions pas que notre Seigneur n'avait pas besoin de porter la croix, il était innocent. Nous, nous avons besoin de porter la croix. Donc l'innocent porte notre croix et nous qui sommes coupables, nous refusons de porter la nôtre. Ça, c'est inimaginable, mes chers frères. C'est ça notre folie à tous. Donc utilisons ce temps de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez-vous pendant la passion de votre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous à genoux souvent devant votre crucifix. Vous n'avez pas le temps de lire tous les textes liturgiques. Au moins pendant la passion, au moins lisez. Lisez les quatre passions. Il y a une passion par évangéliste. Donc lisez lentement ce texte des quatre passions pour vous mettre dans l'histoire, vous placer dans l'histoire et contempler cette histoire. Vous avez une partie de la passion et puis vous essayez de voir qu'est-ce que sont les personnes qui sont là, les personnes, les actions, les paroles, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils font, pour essayer justement de vous incorporer à cette passion, notre Seigneur. Peut-être que le bon Dieu aussi, pendant cette passion, va vous donner les grâces dont vous avez besoin, dont nous avons tous besoin pour lui faire plaisir d'une façon toute particulière. Peut-être une décision que nous devons prendre concernant notre foyer, concernant la famille, concernant notre vie spirituelle, justement pour montrer au bon Dieu, mon Dieu, je regrette réellement mes péchés, ce ne sont pas simplement des mots, il faut des actions. Et l'action, c'est d'abord de changer son âme, de nettoyer son âme pour que notre âme soit toute belle et toute pure, pour arriver à Pâques, le jour de la résurrection du Seigneur. Donc peut-être que notre Seigneur souhaite que nous fassions peut-être au cours de cette semaine, ces 2 semaines de la Passion, peut-être une confession un peu plus complète, afin justement que nous soyons davantage capables de recevoir toutes ces grâces du bon Dieu. Les grâces du bon Dieu nous seront données à condition qu'on ouvre les portes de l'âme. Si on n'ouvre pas les portes de l'âme, comment voulez-vous que le bon Dieu rentre ? Le bon Dieu nous a prévenu qu'il ne rentrerait pas comme un voleur. Attention, il ne va pas forcer la porte. Il passe, il rentre dans la maison si on lui ouvre la porte. Donc essayons de voir. Peut-être que pour certains d'entre nous, là, une des choses que le bon Dieu demande, c'est tout simplement d'envisager, pour ceux qui ne sont pas encore venus, d'aller faire une retraite sur la maison de retraite, la Sainte-Croix-du-Mont. Vous avez les feuilles jaunes à l'entrée de la chapelle avec toutes les dates de retraite. Peut-être beaucoup d'entre vous ne sont pas encore venus. J'espère arriver à voir au moins tous les adultes de la paroisse venir suivre la retraite cette année. Et c'est peut-être ce qui nous attend pour que le bon Dieu nous donne toutes ces grâces dont nous avons besoin. Alors si nous ne savons pas très bien comment justement nous préparer devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, passons par celle qui va porter aussi la croix avec lui. Celle qui va porter la croix avec lui, c'est Notre-Dame, sa mère. Donc demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider, de donner toute une série de conseils pratiques pour nous aider à porter la croix. Elle le sait puisqu'elle l'a portée elle-même. Notre Seigneur Jésus-Christ est devant nous, il porte la plus grande partie de la croix. Notre Sainte Vierge Marie est derrière nous, elle porte la plus grande partie du poids qui reste. Et puis nous, on fait un petit peu ce qu'on peut pour soulever ce qui reste, mais il ne reste plus grand-chose puisque les trois quarts du poids sont déjà sur les épaules de Notre-Dame et sur les épaules de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cœur immaculé de Marie et les cœurs sacrés de Jésus sont comme unis l'un et l'autre pour porter la croix. Il demande une petite participation. On ne peut pas demander au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie, de faire tout le travail sans au moins participer, au moins d'une certaine façon, à porter au moins une petite partie de cette croix. Et voilà ce qu'il nous faut demander. Nous allons demander ça, bien sûr, pendant la Sainte Messe et au moment où notre Seigneur Jésus-Christ va descendre sur l'autel par les paroles de la consécration. Eh bien, demandons cette grâce de savoir utiliser cette passion. N'oublions pas que la messe, c'est la passion. C'est la passion renouvelée. Le sacrifice de la messe, c'est quoi? Le sacrifice de la messe, c'est le renouvellement non sanglant de la passion. C'est le même Dieu, le même sang, la même âme, la même divinité qui va être broyée sur la croix. Eh bien, c'est cette même personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité unie à l'humilité, qui descend sur l'autel caché sous l'apparence extérieure du pain et du vin. Mais la substance n'est plus la même, ce n'est plus du vin, ce n'est plus du pain, c'est la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ ne veut qu'une seule chose, se donner à nous pendant la Passion. Ouvrons les portes bien grandes avec l'aide de la très Sainte Vierge Marie pour qu'il puisse rentrer et rester, demeurer dans notre âme et changer notre âme de fond en comble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.